Beaucoup, l'Afrique, c'est surtout et parfois seulement une gigantesque réserve naturelle, le temple en quelque sorte de la nature sauvage avec ses animaux qui ne le sont pas moins. D'où le succès du tourisme, des safaris par exemple, et comme l'écrit notre invité, plus la nature disparaît en Occident, plus nous la fantasmons en Afrique. Seulement, nous oublions une chose. Dans cette nature, il y a des peuples chassés des vastes parcs nationaux à l'époque coloniale, puis après les indépendances, afin de permettre aux touristes de profiter de leur Afrique fantasmée, donc. Notre invité s'appelle Guillaume Blanc. Il vient d'écrire L'invention du colonialisme vert pour en finir avec le mythe de l'Éden africain. Un livre qui raconte, précise-t-il, l'histoire et l'actualité de l'injustice qui rythme la vie de celles et ceux qui vivent à l'intérieur et aux alentours des parcs nationaux africains. Nous vous proposons donc la déconstruction d'un mythe, en quelque sorte, dans ce nouveau numéro du magazine Idée, que vous pouvez aussi podcaster sur le site de la radio, sur votre moteur de recherche préféré, afin de l'écouter quand vous le souhaitez. Bonjour Guillaume Blanc.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio. Vous êtes historien, historien de l'environnement, maître de conférences à l'université de Rennes 2. Et vous avez déjà écrit une histoire environnementale de la nation, regard croisé sur les parcs nationaux du Canada, d'Éthiopie et de France.
Ouais.
Un livre publié aux éditions de la Sorbonne en 2015. C'était en quelque sorte votre thèse, non?
Oui, c'est la version, disons, remaniée de ma thèse de doctorat, oui.
Alors vous êtes un spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Afrique, de l'Éthiopie en particulier. On peut savoir pourquoi l'Éthiopie en particulier ?
Oh ben ça je le dois à celui qui est devenu mon directeur de thèse, à Bertrand Hirsch, qui est professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui est spécialiste de l'histoire médiévale de l'Éthiopie, mais qui en fait est un des fondateurs, disons, de l'école un peu des éthiopisants, entre guillemets, voilà, qui a un peu dynamisé toutes ses recherches, encadré beaucoup de doctorants, et qui était un enseignant qui vous transmet sa passion pour l'Éthiopie. Et donc j'ai décidé de, je me suis intéressé, donc comme vous l'avez dit, au Canada, à la France, mais aussi à l'Éthiopie. Puis j'ai décidé, après mon doctorat, de me concentrer uniquement sur l'Éthiopie pour pouvoir élargir à l'Afrique de l'Est en particulier, et à l'Afrique en général, même si c'est trop vaste pour dire que je connais toute l'Afrique.
Et votre livre est préfacé par François-Xavier Fauvel, s'il vous plaît, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'histoire et archéologie des mondes africains.
Oui, en fait, nous nous sommes rencontrés avec François-Xavier Fauvel en Éthiopie, lorsqu'il était directeur du Centre français des études éthiopiennes. Et en fait, je lui ai demandé de faire cette préface et j'ai été ravi qu'il accepte. Mais puisque notre projet, en fait, est vraiment similaire, et voilà, et là, François-Xavier celui vraiment qui tient et qui le lance le plus, de redonner toute son historicité au continent africain. Et finalement, mon livre, à sa modeste échelle, s'inscrit dans cette entreprise initiée en grande partie par François-Xavier Fauvel.
Alors parlons de votre livre que je recommande vivement, L'invention du colonialisme vert pour en finir avec le mythe de l'Éden africain. François-Xavier Fauvel écrit justement dans sa préface « L'Afrique serait restée ce sanctuaire entre terre rouge et ciel bleu où l'origine se serait chaque jour fragilement recommencée depuis l'aube des temps, du moins voulons-nous le croire ?» C'est un fantasme.
Exactement.
C'est un rêve.
Oui, oui, et alors c'est avec sa belle écriture, mais c'est exactement ça. C'est, il faut le reconnaître, et l'histoire permet de faire face, disons, sereinement à cette réalité. L'idée d'une Afrique exclusivement naturelle est une idée aussi absurde que celle selon laquelle l'homme africain ne serait pas assez rentré dans l'histoire. Et cette idée est née à l'époque coloniale. Alors elle naît à la fin du 19e siècle, quand les colons quittent, laissent derrière eux une Europe qui se transforme sous les coups de la révolution industrielle, de l'urbanisation, et en fait ils croient retrouver en Afrique la nature qui disparaît chez eux. Et donc ils vont essayer de la sauvegarder. Alors pour ça, ils vont mettre des réserves de chasse en place, et puis ils vont inventer, si je puis dire, le mythe du bon et du mauvais chasseur. Le bon chasseur, donc le sportif, blanc, qui chasse le trophée au fusil et avec bravoure. Et le mauvais chasseur, le braconnier noir, qui lui chasserait non pas le trophée mais la nourriture avec cruauté. Et donc il continue à les colons mettent en place ces réserves, continuent à criminaliser ses habitants, les expulser. Et puis tout cela va être accompagné, soutenu par ce qu'on pourrait appeler, disons, des produits culturels. On va avoir des récits, les récits de voyage de Stanley Livingstone, et puis les chasses de Churchill, de Roosevelt, et puis les romans d'Hemingway, et puis ça va se continuer avec Karen Blixen à Out of Africa, avec Romain Gary et Les Racines du Ciel, et puis jusqu'à nos jours, en fait, ça s'amplifie.
Le cinéma.
Et voilà. Et l'amplification du mythe tient justement aussi à l'apparition de la télé et du cinéma. Quand Out of Africa est mis au cinéma, en 85, il me semble, on a aussi les émissions de David Attenborough sur la BBC, où en fait, on emmène les spectateurs de savane en savane, de rivière en rivière, dans une Afrique sans territoire, sans pays, sans frontières. Et en fait, ce mythe de l'Éden africain prend de la force et toute son ampleur après la décolonisation. Et c'est pourquoi j'ai choisi ce titre, l'invention du colonialisme vert, car en fait, les institutions internationales et tous les médias qui vont le diffuser ont concrétisé, sont allés bien plus loin que les rêves des administrateurs coloniaux en matière de protection de cet Éden africain.
Alors, vous avez parfaitement bien, Guillaume Blanc, résumé la démarche qui est la vôtre. On va reprendre les différents arguments, les différentes époques que vous avez développées. Mais je remarque déjà d'emblée, dans ce que vous avez dit, que l'on a oublié qu'il y avait une population en Afrique.
Mais
des populations, des peuples.
Oui, voilà, exactement. Tous ces mythes, tous ces récits, etc. Or, je prends le roi Lion, parce que c'est ce qui est le plus connu aujourd'hui. Le conte est attendrissant. C'est une réussite. Il est très bien fait. Mais où sont les hommes ici? Pourquoi est-ce que n'importe quel, alors moi je dis ça en tant qu'enseignant, pourquoi est-ce que n'importe quel étudiant sait que le Roi Lion se déroule en Afrique alors qu'il n'est jamais dit que cette fiction se déroulait en Afrique? Par contre, lorsqu'on sait qu'en fait le Roi Lion est inspiré d'un manga, le Roi Léo, écrit par un japonais Osamu Tezuka, dans les années 50, en pleine période coloniale, et où on a déjà ce mythe de l'Éden africain, mais jusqu'à aujourd'hui, où sont les hommes? Nulle part, et il faut l'admettre, cette Afrique vierge, sauvage, surnaturelle, j'allais dire, elle n'existe pas, elle est habitée, elle est cultivée. Et le problème, c'est que nous sommes persuadés du contraire.
Guillaume Blanc, vous parliez tout à l'heure de la littérature qui a nourri le mythe de cet Éden africain. Je vous propose justement un extrait, non pas des neiges du Kilimandjaro d'Hemingway, vous y faites référence dans votre livre, mais j'ai préféré en quelque sorte les vertes collines d'Afrique, rien que pour le titre en français, en tout cas, tout est dit. Mais surtout pour le contenu de cet extrait, écoutons-le. C'est un roman, je le rappelle, écrit par Hemingway, Ernest Hemingway, en 1933, donc on est en pleine époque coloniale, et c'est un extrait de ce roman de chasse, mais avec une description aussi d'une Afrique mythifiée en quelque sorte.
Dans l'après-midi du jour où nous avions pénétré dans la région, nous avions fait à pied environ 6 km à partir du camp, le long d'une piste profonde de rhinocéros qui montait à travers les collines herbeuses aux arbres pareils à ceux d'un verger abandonné, aussi régulièrement que si elle avait été dessinée par un ingénieur. La piste profonde d'un pied était également tracée et nous la laissâmes là où elle se perdait, dans une fissure entre les collines, semblable à un fossé d'irrigation asséché. Et grimpâmes en suant la petite colline escarpée à notre droite pour nous asseoir là, le dos contre le sommet, et examiner le pays aux jumelles. C'était une région verte, plaisante, avec des collines au-dessous de la forêt qui poussait dru au flanc d'une montagne. Et elle était coupée par le lit de plusieurs cours d'eau qui sortaient des futaies épaisses. Des ramifications de la forêt descendaient jusque sur la crête de certaines pentes. Et c'était là, à l'orée de la forêt, que nous attendions de voir déboucher le rhinocéros. Si l'on détournait les yeux de la forêt et des flancs de la montagne, on pouvait suivre les cours d'eau et la pente bosselée jusqu'à l'endroit où le terrain devenait plat et l'herbe roussie et brûlée. Et au loin, à l'extrémité d'une longue étendue de terrain, il y avait la brune Rift Valley et le scintillement du lac Manyara. Une brise fraîche soufflait de l'est et faisait onduler l'herbe sur les collines. Il y avait beaucoup de gros nuages blancs et les grands arbres de la forêt au flanc de la montagne poussaient si serrés et étaient si feuillus que vous auriez cru pouvoir marcher sur leur cime. Derrière cette montagne, il y avait une brèche et puis une autre montagne. Et la montagne la plus distante était d'un bleu foncé avec une forêt dans le lointain.
Guillaume Blanc, nous sommes dans cette Afrique mythifiée. Là, hein. 1933, Ernest Hemingway s'est présenté comme un récit, mais on sait que c'est un récit romancé, évidemment. En tout cas, l'Afrique mythifiée, fantasmée, est là.
Et tout à fait. Et ce qu'on voit bien, ce qui ressort, c'est ce rêve d'Afrique. Ce rêve de tous les Européens, et de manière plus large, qu'on va appeler plus tard les Occidentaux, qui ont perdu la nature chez eux de plus en plus, et qui rêvent de la retrouver. Et là, du coup, on voit comment Hemingway nous parle de ces lacs qui brillent, de ces forêts. Alors, c'est romancé, c'est plaisant, osons le dire, c'est plaisant. Le problème, c'est que ça nous renvoie à... Or, c'est ce que Édouard Saïd, dans l'orientalisme... Alors, lui, c'était pour l'Orient, oui. Mais appelé, alors, à la manière d'Édouard Saïd, hein, des formations discursives régionales. Bon, si on le met autrement, on pourrait dire des clichés qui concernent certains pays. La France, on pourrait dire la baguette, par exemple, où les Français sont râleurs. Eh bien, la formation discursive régionale qu'on a pour toute l'Afrique, c'est cette idée, c'est ce récit que vous venez de diffuser, c'est-à-dire une Afrique édénique, cette planète verte. Mais s'il n'y avait que l'idée, à la rigueur, ça ne poserait pas forcément problème. Le problème, c'est que cette idée mène directement à des ravages sociaux encore actuels.
Parce que dans ce récit de Hemingway, chasseur de rhinocéros, c'est aussi l'objectif de ce livre, de raconter une chasse aux rhinocéros. On ne voit pas d'Africains, en fait, à part les Africains qui aident Hemingway, sa femme et des amis à chasser.
Non, exactement, on n'en voit pas et ça nous donne l'idée, ou plutôt ça nous enlève l'idée selon laquelle il y aurait des cultivateurs, des agriculteurs, des bergers, des commerçants. Ça enlève à l'Afrique sa dimension sociale, humaine. Et à force d'être répété, parce que là on est dans les années 30, mais ces récits-là sont répétés, amplifiés depuis maintenant presque 100 ans. Et à la fin, il devient presque inné de se dire « Oui, l'Afrique est naturelle, enfin, c'est ce que tout le monde a raconté. » Et c'est un problème. Non, l'Afrique n'est pas un continent vierge.
Parce qu'on pourrait se dire aussi, Guillaume Blanc, que Hemingway aurait pu aller dans un parc national aux États-Unis. Il existait déjà à l'époque.
Exactement. Et d'ailleurs, s'il avait été
Sauf
dans
que
les
la
années...
chasse était interdite.
Voilà. Alors, la chasse était interdite. Là, dans les années 30, d'ailleurs, en Afrique, c'est le moment où les réserves de chasse deviennent des parcs nationaux. Donc, la chasse commence à être de plus en plus interdite, puisqu'en fait, les Européens ont tellement chassé la grande faune qu'il a bien fallu convertir les réserves de chasse en parcs nationaux et interdire de plus en plus la chasse. Et puis si Hemingway avait été dans un parc américain, ça aurait été quasiment la même chose. Les populations ont été expulsées, comme dans la plupart des premiers parcs nationaux américains. Et en l'Afrique, là, ici, ne fait pas exception. Sauf que aux États-Unis, les expulsions ont eu lieu essentiellement fin 19e siècle. En Afrique, elle continue aujourd'hui encore.
Alors, vous nous avez expliqué, Guillaume, et vous le faites formidablement bien dans le livre, comment les colons ont créé ces zones qui sont devenues des parcs lors des indépendances. Ces zones qui étaient surveillées, j'imagine.
Oui. Les parcs, enfin les réserves qui sont devenues des parcs, c'est vraiment, il y a eu une disciplinarisation, mais extrême. Il s'agissait de priver du droit à la terre et à l'exploitation des ressources naturelles, animales ou tout simplement environnementales, les Africains. Et donc, la réglementation et aller en se durcissant. Et ça, c'est essentiellement dans les années 30. Et puis, dans les années 50, là, on a vraiment une montée, une radicalisation des mesures coercitives dans les parcs.
C'est ça, on est passé de la surveillance au nom de la nature au désir de chasser les populations de ces territoires qui sont devenus des parcs.
Oui, exactement. Alors, ça nous ramenait, quand on est à l'époque coloniale, ça nous ramenait, disons aussi, à l'importance pour les États de faire respecter l'ordre colonial, puisque il y avait un biais d'appropriation symbolique aussi du territoire. Les colons blancs virils qui s'appropriaient le droit à la chasse et le prestige social, et très viril et masculin, qui accompagnait celui qui allait chasser le trophée. Mais pour ça, pour s'imposer face aux colonisés, il fallait aussi s'imposer face à la nature, leur enlever cette nature, et les colons étaient les seuls à dominer la nature et à dominer ceux qui l'occupaient, c'est-à-dire les sociétés africaines.
Et on a commencé à avoir une administration au temps des colonies de ces territoires.
Oui, c'est là vraiment où on a eu l'administration, parce que les années 30, c'est l'apogée du temps colonial, au niveau de l'État colonial. Et ici, or comme on a eu en Europe, mais pour la construction de l'État fin 19e siècle, on a aussi la science qui fait son entrée, tous les scientifiques qui font leur entrée dans les gouvernements. Donc les botanistes qui vont aider à exploiter les ressources naturelles. Pour les exploiter, il faut les connaître. Et donc la science va aussi nommer toutes ces ressources naturelles, toutes ces espèces que les colons ne connaissaient pas. Il a fallu les baptiser, renommer des lieux. Et là, il y a une véritable appropriation rationnelle et donc efficace des territoires et des ressources.
Alors ça, c'est l'époque coloniale, on va continuer à parler de cette époque, mais j'aimerais, pour qu'on comprenne bien la situation aujourd'hui, connaître le nombre de parcs qu'il y a en Afrique. Vous dites qu'il y en a à peu près 350.
Oui, voilà, on estime qu'il y en a 350.
C'est énorme.
Alors, c'est déjà beaucoup, on va dire, pour une soixantaine de pays, 350 parcs. Cela dit, ce qui est compliqué, c'est pour ça que l'estimation de 350 est raisonnable, on va dire, c'est que beaucoup de pays ont aussi des projets de parcs ou de réserves. Donc sur certaines cartes, on pourrait voir que l'Éthiopie, par exemple, a 35 parcs. En réalité, il y en a 9. Donc 350 parcs en Afrique, et pareil au niveau des estimations, pour un total au XXe siècle de 1 à 14 millions de personnes expulsées de ces parcs.
Sachant que ces parcs ont des territoires considérables.
Oui, certains font la taille de la Bretagne, par exemple. Il y a des parcs, maintenant même des parcs transfrontaliers, qui vont faire la taille presque d'une petite nation européenne. Et là, on retrouve aussi cette idée d'une Afrique immense et immensément sauvage.
Alors vous écrivez, Guillaume, dans ce livre, « Je croyais que les parcs africains étaient des espaces naturels harmonieux. J'ai découvert des territoires minés par la violence. »
En fait, ce qui m'a amené à formuler ce constat, c'est que j'ai commencé mes recherches sur les parcs nationaux français. Et en matière de protection de la nature dans les parcs nationaux français, les Cévennes, les Pyrénées, la Vanoise, puis en fait, là, dans les archives, je m'étais aperçu que les parcs étaient vraiment façonnés, disons, comme des lieux de mémoire. En France, il est assez surprenant de voir que l'État, dans les parcs nationaux, paye pour que les bergers fassent la transhumance à pied et non pas en camion comme dans le reste du pays, pour que leurs habitations aient une toiture de lauze, non pas de la tuile, pour qu'ils aient des pierres de schiste, de calcaire, non pas tout simplement du ciment. Les parcs nationaux français doivent nous rappeler la France paysanne, la France terrienne, la France agraire. Et puis quand je suis arrivé en Éthiopie...
C'est exactement le contraire.
Exactement le contraire. Ce qui m'a le plus choqué, et là la comparaison vraiment est frappante, quand on va sur le site internet de l'UNESCO, le parc national des Cévennes est classé au patrimoine mondial, et pour cela il faut ce que l'UNESCO appelle une valeur universelle exceptionnelle. La valeur universelle des Cévennes, selon l'UNESCO, est l'agropastoralisme, donc les agriculteurs et les bergers, qui ont façonné le paysage depuis 3000 ans. Et donc l'UNESCO plaide pour le soutien des activités traditionnelles et le renouveau de l'agropastoralisme. Et quand on arrive dans le Semien en Éthiopie, le premier parc que j'ai étudié, sur le site internet de l'UNESCO, il est clairement indiqué que c'est un paysage naturel, sublime, mais que l'agro-pastoralisme menace la valeur naturelle du bien et que les populations doivent donc être déplacées. Donc, deux poids, deux mesures, on a des histoires d'adaptation de l'homme à la nature. Ces histoires sont toujours européennes. Et on a des histoires de dégradation de la nature par l'homme. Et ces histoires sont africaines, selon l'UNESCO.
Alors, selon l'UNESCO, alors revenons à cette époque coloniale qui, avec ses colons, qui attentaient à la nature. C'était eux qui attentaient à la nature. Et c'est pour cette raison qu'ils sentaient que la nature était menacée et ont fait porter le fardeau, en quelque sorte, sur les Africains, en disant c'est de votre faute.
Oui, tout à fait.
C'est à vous, les Africains, c'est à cause de vous, les Africains, que la nature est saccagée.
Oui, tout à fait. En fait, les colons n'ont pas pu s'apercevoir que les dégâts écologiques qu'ils dénonçaient étaient dus à leur présence. Oui. Alors, à leur présence pour plusieurs raisons. Pour les chemins de fer, par exemple, il a fallu déforester. Pour construire le chemin de fer, il fallait chasser de la viande en grande quantité autour. Il a fallu mettre des terres en culture également. Et puis on avait les collecteurs de faune, des zoologues allemands qui ont pu envoyer, par exemple, jusqu'à 700 zèbres en l'espace de 2 mois au musée de Berlin. Un chercheur qui s'appelle Corey Ross a montré que entre 1850 et 1920, c'est 94 millions d'hectares de forêts qui sont défrichés. C'est-à-dire 2 fois plus que dans les 2 siècles derniers. Mais les colons, incapables de voir cela, vont blâmer les Africains pour un usage irrationnel, destructeur de la terre, et vont les priver, eux, du droit à la terre. Et paradoxalement, mais à une autre échelle, sur le commerce mondial, on va dire, eh bien aujourd'hui, ce système perdure, puisque l'UNESCO, le WWF, l'UICN blâment les agropasteurs pour ces destructions.
On va revenir sur ces organismes qui sont épinglés dans votre livre, et c'est pour des raisons que vous argumentez, évidemment. Mais je vous propose d'écouter un autre extrait sonore, c'est cette fois la lecture d'un guide publié en 1948 à Bruxelles, à propos de ce que l'on appelait alors le Congo belge. Et c'est un guide qui explique les différentes facettes du pays, et notamment les parcs nationaux du Congo belge. Et je vous propose d'écouter un extrait de l'introduction de ce guide, l'introduction à ce chapitre, les parcs nationaux du Congo belge. On est au cœur de votre démarche. Écoutez-le, c'est, je le rappelle, un guide publié en 1948 à Bruxelles.
L'homme a bouleversé l'ordre naturel des choses. Dans son ignorance, il a souvent, pour un bénéfice minime, gaspillé un énorme capital biologique. Son exploitation irrationnelle saccage souvent de façon irrémédiable les richesses naturelles. Ce sont des chasses imprévoyantes qui amènent l'extinction du gibier, des méthodes agricoles barbares qui stérilisent le sol. Pour parvenir à une meilleure compréhension du rôle joué par le facteur humain dans l'équilibre naturel, les études de l'homme de science porteront sur un vaste groupe d'organismes végétaux et animaux, d'où les influences de l'homme auront systématiquement été éliminées. Ce programme ne contrarie en rien les objectifs des parcs nationaux basés uniquement sur les soucis de protection pure, des beautés naturelles et des espèces vivantes. Lorsque toute action humaine, même la circulation, est interdite, la réserve est nommée réserve naturelle intégrale. C'est sur les bases décrites plus haut que fut créée le 9 juillet 1929 l'institution d'État Parc National Albert. Cet organisme, jouissant de la personnalité civile, est financé et contrôlé par le ministère des colonies.
Une œuvre philanthropique, en quelque sorte, si l'on en croit cet extrait de ce guide publié en 1948, qui décrit donc la création de ce parc national Albert, qui est devenu le parc Virunga.
Oui, voilà. En fait, c'est le premier parc national à être créé en Afrique en 1925. Et là, c'est criant. Il s'agit vraiment de décrier les pratiques agricoles locales, le pastoralisme, les feux de brousse, etc., etc., sachant qu'on est quand même dans un des pays où l'exploitation à grande échelle de toutes les ressources naturelles a été l'une des plus importantes.
Mais je me permets de relire un extrait de ce guide. Dans l'introduction, en fait, de cette loi qui crée ce parc national Albert à l'époque, il est écrit ceci. Pour parvenir à une meilleure compréhension du rôle joué par le facteur humain dans l'équilibre naturel, les études de l'homme de science porteront sur un vaste groupe d'organismes végétaux et animaux, d'où les influences de l'homme auront systématiquement été éliminées.
Oui, voilà, il s'agit vraiment de substituer à l'homme l'animal, la forêt, les plantes, et il s'agit de nier totalement cette espèce de coévolution entre l'homme et son environnement, puisque si on prend l'exemple des forêts primaires, elles n'existent pas. Dans la plupart des pays d'Afrique, il n'y a pas de forêts primaires, elles sont façonnées par l'homme. Mais là, on est dans les années 40, on est dans cette idée d'une écologie où il pourrait y avoir une séparation totale entre l'homme et son milieu. Et c'est cette écologie et ces soi-disant preuves scientifiques qui vont justifier l'expulsion des populations avec toute une entreprise rationnelle.
Parlons de ces populations. De qui s'agit-il, par exemple, en Éthiopie, la région que vous connaissez bien?
Alors, en Éthiopie, que ce soit au nord, sud, à l'est, on a des populations qu'on va dire agro-pastorales. Ça, c'est essentiellement au nord, c'est-à-dire de l'agriculture et du pastoralisme, donc de l'élevage. Où on a essentiellement au sud, dans les basses terres, des nomades ou disons des semi-nomades, donc avec des espaces de transhumance, mais des espaces de transhumance non pas pérennes, on va dire saisonniers. Et ces populations sont blâmées pour occuper la terre. Et des chiffres qui existent aujourd'hui encore en Éthiopie blâment en fait ces agriculteurs, ces bergers pour la destruction de la forêt. Ces chiffres n'ont aucune réalité scientifique, aucun fondement.
C'est ça qui est assez effrayant. Vous donnez le nom et le travail de beaucoup d'experts qui ont participé à la création ou à la gestion de ces parcs. Leurs études reposent souvent sur des chiffres inventés.
Voilà, on a des estimations locales, par exemple dans les années 30, quand le monde, on va dire, est pris d'une peur panique de l'érosion après la grande sécheresse aux États-Unis à la fin des années 20 dans les grandes plaines. Et en fait, où ça a donné les Hokies avec ce roman Les raisins de la colère de Steinbeck qui décrivait les migrations suite à cette catastrophe. Les colons, les administrations européennes prennent peur de se dire si une telle sécheresse arrive en Afrique dans les colonies, gare aux révoltes. Et donc, ils lancent des grandes enquêtes écologiques. Et on va avoir, par exemple, deux écologues qui, dans les années 30, vont faire une étude localisée dans le nord de l'Afrique du Sud. Ils vont publier un grand rapport qui va s'appeler « The Rape of the Earth », le viol de la planète. Et en fait, ils vont prendre un chiffre que eux-mêmes reprennent d'un rapport qui datait des années 20, et ils vont prendre ce chiffre en disant « la forêt a disparu de 30%, et ce chiffre, non seulement n'était déjà pas fondé, mais c'était une estimation, et ils vont le reprendre et dire que toute l'Afrique fait face à ce même chiffre. Aujourd'hui encore, Al Gore, dans ses travaux pour lesquels il a reçu le prix Nobel de la paix, Al Gore reprend des chiffres de la forêt perdue d'Éthiopie, comme quoi l'Éthiopie était peuplée à 40% de forêt en 1900 et 1% aujourd'hui. En réalité, ces chiffres, lorsqu'on va trouver leur origine, c'est un expert de la FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, qui les a formulés en 1961. Il a visité à cette époque 15 pays d'Afrique en 2 mois. Il séjourne une semaine en Éthiopie. Il prend 2 rapports. Dans l'un des rapports rédigés 15 ans avant, il voit que, ici, dans telle région, il y aurait 40% de forêt. Et il prend un autre rapport, ici, il y aurait 3% de forêt. Il augmente le premier chiffre, il diminue le deuxième, et il dit que en Éthiopie, l'Éthiopie est passée de 40% de forêt à 1%. Al Gore reprend ces chiffres, toute la communauté internationale les reprenne, et au nom de cette dégradation pour lesquelles, exactement comme dans l'extrait que vous avez montré, on blâme les populations locales, eh bien ça justifie, aujourd'hui encore, sinon leur expulsion, au moins leur criminalisation, en se basant sur des chiffres qui n'ont aucun fondement scientifique.
D'ailleurs, vous écrivez, Guillaume Blanc, que le rapport sérieux sur l'état écologique de l'Afrique reste à faire, d'évidence.
Tout à fait. Il n'y a que 2 façons de mesurer la déforestation. C'est la dendrochronologie, les cercles dans les arbres, et la palynologie, le taux de pollen dans le sol qui peut nous permettre de dater l'évolution du couvert forestier. Soyons sérieux. Comment est-ce que une étude continentale aurait pu être menée dans toute l'Afrique. Et cela, les experts ne veulent pas la reconnaître.
Ce qui est assez fascinant dans votre livre, c'est la partie dans laquelle vous expliquez le basculement qu'il y a entre le moment colonial, comme on dit aujourd'hui, et les indépendances. C'est-à-dire que les pays africains sont devenus indépendants, mais les experts des parcs nationaux sont restés. Le Fonds mondial pour la nature a été créé, mais il a gardé les experts du temps des colonies. L'ONU a fait la même chose, l'UNESCO notamment. Donc, sur le plan de la façade, les choses choses paraissent avoir changé, alors que sur le fond, rien.
En fait, là, voilà, il faut vraiment adopter la démarche de ce qu'on a appelé les études post-coloniales, qu'un champ voilà, d'études. Si on arrête d'avoir une perspective du Nord, où on dit que la décolonisation, voilà, la rupture chronologique, c'est 1960, à peu près. Mais ça, c'est un point de vue de ceux qui colonisaient. Oui, les États européens sont partis. Si maintenant on adopte un point de vue du Sud et qu'on regarde concrètement dans les sociétés africaines ce qu'il se passait, eh bien, on voit que les administrateurs coloniaux, à la fin des années 50, ils sont mis au chômage par les indépendances. Et ils se reconvertissent en experts internationaux. Pour cela, les nouvelles institutions internationales, qui n'ont de nouveau que le nom, en fait, vont blanchir, entre guillemets, ces agents, ces administrateurs coloniaux. Et donc, ils vont être embauchés par l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui en fait était créée depuis 30 ans, par l'UNESCO, et ils vont avoir l'idée d'inventer, de mettre sur pied une banque, dont la première fonction serait de récolter des fonds pour, et je vous cite vraiment un des experts, Ian Grimwood, un ancien de la Rhodésie, il le dit, pour faire face à l'africanisation des parcs, c'est-à-dire à l'indépendance. Et cette banque va voir le jour lors d'une grande conférence à Arusha en Tanzanie, c'est là que ça va être officialisé. Cette banque s'appelle le Fonds mondial pour la nature, c'est-à-dire le WWF, et le WWF va financer un véritable déploiement d'experts dans toute l'Afrique pour lancer un projet qui est lancé par l'UNESCO, l'UICN, le WWF, les Nations Unies, qui s'appelle le projet spécial pour l'Afrique. Et le projet spécial consiste à continuer, poursuivre le travail accompli dans les parcs. Et ces experts vont rester jusqu'à la fin des années 70 dans tous les pays d'Afrique.
Donc il s'agit d'entériner la situation des coloniales.
Voilà, en fait c'est vraiment, on n'est plus dans le fardeau civilisationnel de l'homme blanc qui justifiait la colonisation, bien entendu. Mais on assiste à une conversion où en fait on va avoir le fardeau écologique de l'expert occidental. L'intention n'est plus la même, bien sûr. Mais en revanche, l'esprit reste le même. Le monde moderne devrait sauver l'Afrique des Africains.
Et le préserver des populations locales.
Voilà, tout ça pour le mythe de l'Éden africain. Bien sûr que les dirigeants africains, dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas choisi ce cadre, cette idée de l'Éden africain, mais ils vont savoir en profiter.
Et ils vont savoir en profiter. Hein. Vous écrivez que les États africains ont eu aussi besoin du mythe.
Totalement. Pour les États africains, surtout dans les années 60, Julius Nyerere, le dit lui-même, il est le président de cette conférence d'Arusha dont je vous parlais, qui a lieu en 61. Dans des écrits qui sont adressés qu'aux Tanzaniens, il le dira lui-même, moi personnellement je n'ai pas grand intérêt à prendre des vacances pour aller voir des crocodiles. Mais puisque les Occidentaux sont prêts à dépenser des millions pour ça, faisons-le. Donc c'est la manne financière que peuvent générer les parcs. Et puis, comme l'a fait la France, comme l'ont fait les États-Unis 50, 60 ans avant, créer un parc national, c'est aussi un moyen de planter le drapeau dans des territoires qu'un État peine à contrôler. Ce n'est pas un hasard si, comme en France, mais par exemple en Éthiopie, les parcs sont situés dans des régions de maquis, chez les nomades, chez les opposants, bref, dans des territoires que la reconnaissance internationale va permettre de mieux contrôler. Donc vous voyez, entre l'expert occidental et le dirigeant africain, une nouvelle alliance se tisse. Ça, c'est la clé du colonialisme vert. Mais dans cette alliance, l'habitant, lui, reste le grand perdant.
C'est très juste ce que vous dites, Guillaume Blanc, parce que ces parcs, ces territoires naturels, entre guillemets, tels que les rêves, les occidentaux, sont souvent des terres de combat, hein, des terres de guérilla. Hein.
Oui, regardons aujourd'hui ce qui se passe dans le parc du W, qui est un parc transnational entre le Burkina, le Niger et le Bénin. C'est là où on a eu les 8 touristes qui ont été tués, enfin 6 touristes français et 2 guides. Le parc qui était un refuge pastoral est devenu un refuge politique et aujourd'hui est pris par la filiale de Daesh, le groupement islamique du Grand Sahara. Ces parcs sont des territoires de conflits généralement et les conflits sont masqués par ce grand récit d'une Afrique naturelle et sauvage qui nous masque les réalités locales.
D'évidence, la création de ces parcs avec les dirigeants africains, il faut le répéter, qui y trouvaient leur intérêt et le trouvent toujours, cette création est liée très clairement au tourisme.
Oui, pour les États africains, il va y avoir, disons, l'UNESCO est promotrice de labels soutenu par le WWF, l'UICN, par exemple le label Patrimoine Mondial de l'Humanité pour l'UNESCO. Bien entendu, un site qui va être déclassé du patrimoine mondial, le tourisme va s'effondrer. Donc ces parcs génèrent des revenus considérables pour certains pays, comme le Kenya, la Tanzanie, mais pour l'Éthiopie, les parcs naturels ne génèrent pas énormément de revenus. Mais ça représente un intérêt, celui, disons, de faire reconnaître la nation par l'extérieur pour mieux l'imposer à l'intérieur. Et également, ensuite, avoir d'autres subventions pour d'autres projets de développement. Mais pour cela, des États comme l'Éthiopie ou comme le Gabon, le Rwanda, le Congo, ne peuvent pas se passer de la reconnaissance internationale. Ils ne peuvent pas.
Est-ce que cela veut dire, Guillaume Blanc, qu'il n'y a plus aujourd'hui de population locale dans les parcs en Éthiopie ?
Alors, il y en a encore. Alors moi, dans le parc du Sémienne, les populations ont été expulsées.
Qui est celui que vous avez particulièrement étudié. Oui.
Voilà, ça a été le premier que j'ai étudié. Les populations, la majeure partie, ont été expulsées en 2016. Il reste encore 2 à 3 000 habitants qui, théoriquement, devraient être déplacés, donc en périphérie du parc. On a en fait énormément aujourd'hui, il y a toujours des parcs qui sont peuplés, mais où surtout, comme dans les parcs français, disons que les populations vont être juste en périphérie. Et en fait, là qu'on va être dans des espaces de montagne dans les parcs, c'est des espaces de pâturage ou des espaces de réserves forestières, puisque contrairement au mythe d'une forêt primaire que les Africains, trop nombreux et malhabiles, auraient détruite, on a souvent des rotations. C'est-à-dire qu'on défriche ailleurs quand on laisse repousser là-bas, et puis on défriche là-bas quand on laisse repousser
une vieille
ailleurs.
Tradition
voilà, que tous les agriculteurs
et les bergers du monde connaissent.
Du monde, ouais, exactement. Ouais, ouais. Donc, il y a encore des populations, mais dans et autour des parcs, ces populations sont punies d'amendes, voire de peines de prison, pour cultiver la terre, étendre leur maison, aller chasser, non pas la grande faune, ceux qui vivent d'une agriculture de subsistance ne chassent pas les éléphants. À qui pourraient-ils vendre le produit de ce braconnage? Ils se baladent à pied, n'ont pas d'électricité, pas de téléphone. Comment ils pourraient être insérés dans des grands réseaux de braconnage? Mais ces populations sont criminalisées quotidiennement, aujourd'hui encore.
Et d'évidence, la création du patrimoine mondial par l'UNESCO, je crois que c'était en 1972, a eu un effet totalement négatif.
Oui, alors, pour les États africains, il s'est agi d'obtenir la reconnaissance internationale. Haïlé Selassie en Éthiopie, ça a été le premier pays quand l'UNESCO a lancé sa charte patrimoine mondial, c'était en 72, et le premier classement a eu lieu en 78. On a eu 9 sites classés au patrimoine mondial, 2 étaient éthiopiens. Mais ensuite, tous les autres États vont faire de même, obtenir cette reconnaissance, ce Graal qu'est le patrimoine mondial de l'humanité. Alors, l'UNESCO a changé sa politique. En 2003, l'UNESCO a créé un nouveau label, le patrimoine mondial, non plus naturel et culturel, mais immatériel. Et l'UNESCO, qui le reconnaît et qui œuvre d'ailleurs pour ça, le dit que ce critère en 1972, nature ou culture, était très occidentalo-centré. Donc l'UNESCO reconnaît bien sûr cette erreur. Sauf que ce que l'UNESCO ne voit pas ou peine à reconnaître, c'est que tous les parcs qui ont été classés au patrimoine mondial naturel restent prisonniers d'une éthique qui est née de la colonisation. Et ces parcs-là, le patrimoine immatériel n'y change rien. Ils sont bloqués dans cette logique, disons-le, absurde.
Et vous notez aussi qu'il ne faut pas dissocier la création de ces parcs du contexte dans lequel ces parcs ont été créés. Vous citez par exemple l'Afrique du Sud, où apartheid et nature sont indissociables. En Tanzanie, où 25% des terres sont devenues des réserves naturelles, le régime socialiste a usé de l'argument écologique pour mener des politiques foncières toujours plus centralisées. Et vous citez aussi le Zaïre.
Oui, alors là c'était Mobutu.
La RDC actuelle.
Oui, voilà, où Mobutu en fait, la région qu'il peinait à contrôler, c'est enfin beaucoup de régions, vu l'immensité du pays, mais dans l'est de la RDC, enfin de l'actuelle RDC, dans le Kivu, c'est de là d'où vient Kabila, qui finira son odyssée triomphante en rentrant à Kinshasa en 97, eh bien il se servait des parcs pour essayer de contrôler ces territoires. Donc bien entendu, le contexte va différer selon chaque pays, et l'important est de regarder ces contextes, d'aller au-delà d'un idéal d'une Afrique naturelle et sans frontières et apolitique, mais de se dire non, de la même manière que la France n'est pas l'Italie, n'est pas la Pologne ou la Roumanie, l'Éthiopie, ça n'est pas le Congo, ça n'est pas le Rwanda, ça n'est pas le Gabon. Chaque contexte va compter et il faut aller voir concrètement sur le terrain, au cœur des sociétés africaines, comment s'articule cette ce gouvernement global de la nature aux sociétés concernées.
Ce qui est assez effrayant en un sens, Guillaume Blanc, c'est que l'on voit que des organisations internationales, parfois hors sol, gouvernent littéralement des pans entiers de l'activité d'un pays, en fait,
ouais.
Enfin de pays africains.
Oui, et
sans
ça,
parler c'est... de l'époque où, je crois que c'est en Éthiopie, il y avait un conseiller.
Alors là, dans les années 60, là, si
Blower,
vous me permettez l'expression pour un historien, c'est assez fantastique, mais on avait un homme, John Blower, qui est un Britannique, forestier, diplômé d'Édimbourg, qui a fait la Seconde Guerre mondiale, et puis bon, il passe son diplôme de foresterie à Édimbourg, et puis il part en Afrique. Voilà. Il a servi dans la Royal Frontier Force, il part en Afrique, et donc il va devenir garde des parcs. Alors il va être en Ouganda, puis ensuite il va être envoyé pour réprimer la révolte des Mau Mau au Kenya, puis ensuite il retourne dans d'autres parcs britanniques, et puis arrive l'indépendance. Il est au chômage, et là, des collègues, d'autres experts, là c'est son collègue Leslie Brown, qui lui est au Kenya, le recommande à l'UNESCO pour ce fameux projet spécial pour l'Afrique. L'UNESCO le recommande à Haïlé Sélassié, puisqu'Haïlé Sélassié avait fait venir une mission naturaliste, dirigée notamment par Julian Huxley, le premier président de l'UNESCO, Théodore Monod, notre français. Et en fait, il recommande John Blower. John Blower arrive en Éthiopie et il devient très officiellement le conseiller de l'empereur pour la mise en place des parcs nationaux. Et pendant 5 ans, de 65 à 70, il va œuvrer pour la création de ces parcs et les archives. Moi, alors c'est ma théorie, je pense qu'il a dû partir précipitamment puisqu'il a où toutes ces archives sont en Éthiopie. C'est environ 10 à 15 000 pages de mémo. Où on retrouve dans ses archives, où il le dit dans ses communications avec l'UNESCO, je n'ai jamais rencontré d'êtres humains aussi destructeurs et malhabiles que les paysans éthiopiens. Nous ne sommes pas menacés ici par la démocratie. Nous pouvons protéger la nature. Et c'est des milliers de pages ainsi. Mais ce John Blower, il était persuadé d'œuvrer pour la nature. Il l'était persuadé. Et les experts aujourd'hui, bien sûr, ne sont plus dans cette logique coloniale. Mais là, alors c'est une phrase que j'emprunte toujours au philosophe Edgar Morin, dans le tome 5 de La nature humaine, sur l'identité. Il a une phrase qui m'a toujours frappé, où il parle de tous ces experts, et il parle du Léviathan planétaire. Et sur ces experts, il le dit, comme ils sont persuadés de détenir la vérité universelle, ils se permettent de dépasser les limites du politique. Et c'est exactement ça qui se passe aujourd'hui. Ces experts œuvrent partout, persuadés d'œuvrer pour le bien commun, et donc de dépasser les limites de la souveraineté des États. Mais si on y pense, est-ce qu'un expert éthiopien pourrait aujourd'hui, au nom de l'UNESCO, demander à l'État français « expulsez vos populations dans les Cévennes » Bien entendu, non. Par contre, qu'un expert international aille demander à des États africains de dire « je vous recommande de promouvoir le déplacement des populations », bien entendu, ici, ça ne choque personne. En réalité, c'est choquant.
Oui, ça s'appelle même du racisme, non ?
Ou au moins du colonialisme vert, l'idée selon laquelle le monde moderne devrait sauver l'Afrique des Africains, et donc que des experts connaîtraient mieux l'Afrique, alors que moi, pour avoir retrouvé les emplois du temps des experts, je peux vous dire que leur mission, et j'ai vraiment tout leur... C'est 6 jours, 35 réunions, 2 heures en 4x4 dans le parc national. Par exemple, dans le parc national du Sémienne, moi, personnellement, ça m'a pris 2 semaines pour le traverser à pied en entier. Mais eux, en 5 jours, la sanction tombe. Ce parc est trop habité, trop dégradé, alors qu'ils n'ont pas mené de nouvelles études écologiques. Il faut le déclarer en péril et expulser les populations.
Alors certains vont vous dire, Guillaume Blanc, que ces parcs nationaux permettent de sauvegarder la nature, les animaux. Je crois que ces jours-ci, on parle beaucoup du Kenya qui voit sa population d'éléphants accroître parce qu'il y a une politique de surveillance très très forte dans ces parcs kenyans. Simplement, on oublie toujours qu'il y a des populations.
Alors, non seulement on oublie toujours qu'il y a des populations, mais je reviendrai d'abord sur l'argument. Beaucoup me diront « Oui, mais là, ça nuit à la cause écologique ». Non. Moi, ce livre, je l'ai écrit pour la cause écologique.
Parce que c'est aussi votre livre, c'est en cela qu'il est également intéressant, c'est aussi une réflexion sur une certaine écologie. Hein.
Exactement. Si on prend l'exemple d'un parc national, pensons-y concrètement. le coût écologique d'un parc national africain, sachant que les parcs nationaux africains, à 90-95%, sont visités par des Occidentaux. Un randonneur viendra avec des bâtons de randonnée, donc de l'aluminium. C'est de l'extraction de bauxite. La veste en Gore-Tex, c'est du téflon. La polaire, c'est des résidus de pétrole. Généralement, on vient avec son smartphone. Donc du néodyme de Chine, du tantal du Congo et du coltan. Et puis, on a le coût d'émission de carbone, le CO2, 0,5 tonnes à peu près. Donc, aller visiter un parc national en Afrique, c'est l'équivalent de détruire dans le monde les ressources naturelles qui sont mises en parc là-bas. Donc, première chose, il faut l'admettre.
Sans compter le vol.
Voilà, avec les 0,5 tonnes d'émissions de CO2, en effet. Et donc, visiter un parc national africain, c'est l'équivalent de le détruire. Donc, il ne s'agit pas de protéger la nature, mais de la consommer. Et maintenant, deuxième chose, sur les populations et le braconnage. Et effectivement, le Kenya, avec le baby-boom des éléphants auxquels on assiste.
Parce qu'on incrimine souvent les populations locales en disant ce sont eux qui braconnent. Et vous dites, c'est pas du tout ça. Et on sait que le braconnage à ce niveau-là, ça relève plutôt de mafias, de groupes internationaux.
Voilà. C'est ça qu'il faut bien voir. Les braconniers, les réseaux de braconniers, et donc par exemple de trafic d'ivoire, de trafic de peau de lion, ces réseaux doivent être combattus et vraiment éradiqués, mais ce ne sont pas des paysans qui organisent ces réseaux. En revanche, les paysans sont les premières victimes de la guerre pour la biodiversité qu'a très officiellement lancée la Banque mondiale en 2001 avec son président James Wolfensohn, dont c'était le titre de son rapport, gagner la guerre pour la biodiversité. Mais ces agriculteurs, de quoi vivent-ils ? Ils produisent leur propre nourriture. Ils se déplacent à pied. Ils vivent sans électricité. Ils ne consomment quasiment jamais de viande, jamais de poisson, achètent très rarement de nouveaux vêtements. Contrairement à 2 milliards de gens, ils n'ont ni smartphone ni ordinateur. Si on voulait sauver la planète, véritablement, il faudrait vivre comme eux. Alors pourquoi les expulse-t-on ? Eh bien, c'est là toute l'incohérence du développement durable. C'est parce que c'est le seul moyen que nous trouvons pour nous exonérer des dégâts que l'on cause partout ailleurs. Plus la nature disparaît en Occident, plus on la fantasme en Afrique, plus on veut la mettre en parc, en se disant, on ne peut plus sauver la nature chez nous, mais au moins, elle est préservée là-bas. Le problème, c'est que non seulement ce n'est pas de la préservation, mais les ravages sociaux sont quotidiens et dévastateurs.
À votre connaissance, ce sera ma dernière question, Guillaume Blanc, est-ce qu'il y a, chez les gouvernants africains, c'est une prise de conscience de ce néocolonialisme, en quelque sorte ?
Totalement.
Qui profite aussi à leur économie, mais quand même.
Il y a, et chez les dirigeants africains, et dans les institutions internationales, depuis 25 ans, ce qu'on appelle la conservation communautaire. Le problème est que cette conservation communautaire n'atteint jamais les objectifs sociaux qu'ils se sont fixés. Alors là, il faut lire le livre pour voir dans les détails. Pourquoi ? Tout simplement parce que le consentement des populations locales, même dans cette nouvelle politique, n'est jamais demandé.
Merci Guillaume Blanc, il faut lire absolument, on l'aura compris, votre livre, là, fort remarqué d'ailleurs, hein, et ça c'est assez réconfortant de voir que votre thème de travail est remarqué.
J'espère que cette histoire sera connue, moins pour moi que pour tous les agriculteurs et les bergers qui souffrent de cette histoire.
Ce livre donc est intitulé « L'invention du colonialisme vert », pour en finir avec le mythe de l'Éden africain, il est publié chez Flammarion et vous viendrez un jour nous parler de la suite de vos travaux.
J'espère.
Merci, idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger ce magazine sur notre site www.rfi.fr afin de l'écouter quand vous le souhaitez. Et nous vous donnons rendez-vous samedi pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI. RFI.